France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Elle a fleuri depuis plusieurs semaines déjà l'expression « deuxième vague psychiatrique ». À prendre avec précaution, sans doute, les données sont encore peu nombreuses et récentes. Mais comment penser que l'expérience du confinement, la rupture de soins qu'il a souvent engendré, la distanciation physique, mais aussi parfois bel et bien sociale, la peur d'être malade, de rendre les autres malades, les discours répétés sur la menace persistante, sur l'avenir sombre ou du moins incertain, comment penser que tout cela puisse être sans conséquences? Nous voudrions nous projeter, profiter des vacances, mais même là, voilà que l'on nous dit de plus en plus fort que le virus n'est pas parti et que des plans de reconfinement ciblés sont prêts. Alors sans verser dans le catastrophisme, il est peut-être important d'en parler des souffrances psychiatriques et de cette psychiatrie elle-même en souffrance depuis des années. Bonjour Marion Le Boyer.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Mondor à Créteil dans le Val-de-Marne, directrice de la Fondation Fondamentale et co-auteur du livre Psychiatrie, l'état d'urgence, paru chez Fayard en 2018. D'abord, très simplement, Marion Le Boyer, cette expression « deuxième vague psychiatrique » vous semble-t-elle pertinente, vous semble-t-elle correspondre à la réalité ?
Alors, c'est sûr que les conséquences psychiatriques de la pandémie et du confinement sont devant nous et qu'on commence à en voir les effets. On a vu différentes vagues de patients et on assiste en ce moment à une augmentation des consultations, par exemple des patients de nos files actives qui ont été en rupture de soins pendant le confinement. On a publié une étude récente sur, par exemple, la région parisienne où on montre qu'il y a 50% de moins diminution de passage aux urgences dans les urgences de psychiatrie, ce qui est tout à fait considérable. Donc on a été extrêmement actifs pour déployer des téléconsultations, pour appeler les patients de nos files actives. Néanmoins, il y a certains patients, en particulier les plus précaires, qui sont en rupture de soins et qu'on voit revenir. Ce qui est devant nous, c'est des nouveaux patients qui n'ont jamais été malades, mais qui ont été exposés, comme vous venez de le rappeler, aux conséquences très stressantes et très anxiogènes de la pandémie et de ce qui se passe aujourd'hui, qui ont aussi été exposés aux conséquences de l'isolement social, des troubles du sommeil, de l'augmentation des addictions, en particulier des augmentations de l'alcoolisme, des violences à l'intérieur des maisons. Et il y a eu plusieurs études françaises qui ont montré une augmentation, en particulier des troubles anxieux et des troubles de l'humeur, tout particulièrement chez des populations particulièrement vulnérables, les femmes, qui ont été plus exposées à toute une série de difficultés, des personnes précaires, des jeunes qui sont particulièrement à risque en ce moment, des soignants qui n'avaient jamais été malades mais qui ont eux-mêmes pendant la période très aiguë de la pandémie ont vécu des situations très très douloureuses et très traumatisantes et qui ont fait des pathologies anxieuses, par exemple des stress post-traumatiques qui sont en train aussi de se déployer, vers qui il faut aller pour pouvoir les prendre en charge. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne sais pas si c'est une deuxième vague et si le terme est correct, mais on s'attend dans les semaines et dans les mois à venir à ce que les conséquences du chômage ou les conséquences des difficultés économiques, comme ça a été le cas au moment de la crise de 2008, entraîne une augmentation des tentatives de suicide, une augmentation des dépressions, une augmentation des pathologies anxieuses chez des nouveaux patients, chez des personnes, encore une fois, qui n'ont jamais été malades. Et puis, dernier point auquel il faut que nous, médecins, mais aussi vos auditeurs et la population générale soient particulièrement attentifs, c'est que les patients qui ont été infectés par le Covid, qui ont eu une tempête cytokinique, qui ont eu une inflammation à cause de cette infection, ils puissent eux-mêmes avoir particulièrement fort et plus qu'auparavant, des troubles de l'humeur, des dépressions et des troubles anxieux, parce qu'on sait qu'il y a un lien extrêmement fort, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la partie recherche, entre des désordres immunitaires, des anomalies de l'inflammation qui font le lit de pathologies psychiatriques et en particulier de dépression.
Voilà, alors vous avez posé un peu les enjeux effectivement de cette discussion, Marion Le Boyer. On va revenir sur ces différents points. D'abord, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur vos patients. Selon effectivement la cellule de crise Covid santé mentale, il y a eu environ 10% de perdus de vue, comme on dit. Est-ce que vous les retrouvez, ces patients? Est-ce qu'ils sont revenus vers vous, vers leur psychiatre?
Alors déjà, je voudrais dire que 10%, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une capacité du système de soins,
qui s'est adapté.
De psychiatrie, dont on sait qu'il est malade, qu'il est en crise, etc., mais qui s'est remarquablement adapté à la situation très aiguë. D'abord en créant des unités spécialisées pour les patients porteurs d'une maladie psychiatrique et qui ont développé un Covid. Et donc ces unités, elles ont eu besoin de se développer, de se créer. On l'a fait très rapidement. Elles ont été aussi très actives, en particulier les services de secteur, pour rappeler leur file active, mais aussi en ville, pour rappeler les patients et pour déployer quelque chose qui n'existait pas ou très peu, qui sont les téléconsultations, qui ont plutôt très bien marché et qui ont permis pour les patients qui, bien sûr, ont un téléphone portable ou un ordinateur, de faire des vidéoconsultations, des téléconsultations. Et puis, il y a une marge de la population, je ne sais pas si c'est 10%, mais c'est probablement des chiffres qui vont être mesurés très rapidement, qu'on n'a pas réussi à atteindre, qui ont été en situation de rupture de soins et qu'on voit revenir dans nos services parce qu'ils ont arrêté leur traitement et qui sont actuellement en rechute ou réhospitalisés.
Mais donc, vous les voyez revenir, ils sont pas totalement perdu de vue.
Le système et l'organisation de la psychiatrie pour des pathologies lourdes comme la schizophrénie par exemple ou le trouble bipolaire fait que ces patients sont suivis sur leur secteur, donc dans un centre de consultation qui est spécialisé dans, aux alentours ou très à proximité de l'endroit où ils vivent, qui permet de suivre les patients et quand ils sont en rechute de pouvoir les réhospitaliser.
Vous parlez des téléconsultations, Marion Le Boyer. Justement, vous dites que ça a bien fonctionné. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est peut-être moins évident pour de la psychiatrie, la téléconsultation. Vous, ça vous a convaincu? C'est quelque chose dont vous pensez que ça va se développer justement à l'avenir sur la base de cette expérience?
Alors moi, à titre personnel et les médecins de mon service, on a trouvé que ça marchait plutôt très bien et que la plupart des patients, ils étaient finalement très heureux de pas avoir besoin de prendre des transports en commun, de se promener dans les hôpitaux où c'est quelquefois compliqué de trouver le service où on doit aller. Bien entendu, c'est pas la seule manière d'interagir avec des patients. Les premiers contacts et les premières consultations, ça se fait mieux en présentiel qu'en téléconsultation. Mais pour des suivis, je pense que là aussi, il y a matière à faire de la recherche pour essayer d'évaluer l'impact de ces innovations et en particulier des téléconsultations pour savoir si c'est un mode de prise en charge qui doit se développer, préciser dans quelles conditions et savoir finalement, comme pour toute innovation dans l'organisation des soins, si c'est un système qu'il faut pérenniser et développer ou pas.
Mais dans la qualité d'échange des soins qui reposent tout de même beaucoup sur l'échange sur la parole, ça reste intéressant.
Moi, je trouve que ça a très très bien marché, et surtout dans ce contexte de confinement où on demandait aux gens de pas sortir de chez eux, ça a permis de poursuivre la prise en charge, de leur envoyer des ordonnances à domicile, de repréciser un certain nombre de points ou de leur donner des outils d'auto-aide qui a très bien marché.
Alors, vous le disiez, et peu de données, effectivement, pour le moment, les conséquences sont plutôt devant nous. En même temps, Santé publique France a commencé dès le départ, dès le printemps, à travailler là-dessus. Il y a aussi, évidemment, des remontées du terrain. Donc, sans dire de mesurer exactement, c'est impossible, effectivement. Mais par exemple, vous parliez des personnes qui viennent consulter pour la première fois. Quel est le motif et quels sont les troubles qui ont été rencontrés les plus souvent chez ces personnes qui n'avaient jamais consulté en psychiatrie?
Alors effectivement, vous parlez de cette étude de Santé publique France qui a porté sur 2000 Français pendant le confinement et qui a mesuré une augmentation des troubles anxieux qui a doublé, donc c'est tout à fait considérable par rapport à une mesure identique qui avait été faite l'année dernière et qui a beaucoup insisté sur le fait que les personnes qui étaient particulièrement à risque de développer ces troubles anxieux, c'était plutôt les femmes et plutôt les personnes précaires. Nous, à la Fondation Fondamentale, on a déployé très rapidement pendant le confinement des plateformes, et en particulier une plateforme qui s'appelait Covid Écoute, qui a non seulement permis de venir en aide aux personnes qui appelaient, mais aussi d'avoir un certain nombre de chiffres. Et on a observé là aussi que les appelants, c'était quasiment 69% de femmes, donc de nouveau cette vulnérabilité particulière. 70% de primo-consultants, donc c'est aussi énorme, c'est-à-dire que ça montre bien qu'il y a une nouvelle vague et que des personnes qui n'ont jamais été malades à cause de cette pandémie tombent malades. 10% d'idées suicidaires, donc très clairement des personnes qui ont soit des troubles de l'humeur, soit des idées suicidaires, soit des troubles anxieux sévères et qui nécessitent une prise en charge. Avec toutes les difficultés qu'on connaît autour de cette prise en charge en psychiatrie, qui est exposée à ce qu'on appelle la stigmatisation, c'est pas facile de reconnaître qu'on est déprimé et qu'on a besoin de consulter un psychiatre. C'est pas facile de se repérer dans le dédale du parcours des soins pour avoir accès aux bons praticiens. Donc c'est tous ces éléments-là aussi que ces innovations que représentent les plateformes posent comme question, c'est-à-dire est-ce que c'est des outils qui vont permettre d'améliorer l'accès aux soins? Je rappelle un certain nombre de chiffres inquiétants, il y a en France en moyenne 7 à 10 ans de retard pour poser un diagnostic par exemple de trouble bipolaire. Est-ce que ces outils qui sont amenés à se développer, qui sont ces plateformes et ces téléconsultations, vont réduire toute une série d'indicateurs qui sont difficiles et en particulier pour ces personnes qui sont tombées malades à cause de la pandémie ou qui dans les mois à venir vont tomber malades.
Vous parliez de cette plateforme d'écoute que vous avez mise en place avec la Fondation Fondamentale. Je crois que la première cause d'appel était la tristesse d'être loin de ses proches. tout simplement, on a envie de dire. Pensez-vous que les conséquences du confinement sur la santé mentale ont été suffisamment prises en compte, ou en tout cas ont été réfléchies au moment de prendre cette décision du confinement ?
Je pense que pour les autorités sanitaires, il n'y avait pas vraiment de choix. Maintenant, c'est à nous, professionnels de santé, de savoir dépister ce qui est de l'ordre de la tristesse, parce qu'effectivement, on est isolé, seul, et que ça entraîne forcément un sentiment de tristesse. Et quand est-ce que ça devient une pathologie qu'il faut soigner ? C'est ça tout l'enjeu de la spécialisation que représente notre discipline, la psychiatrie, qui est de savoir reconnaître quand est-ce que c'est un état parfaitement normal et une réaction parfaitement normale, et quand est-ce que ça devient une pathologie qui nécessite un soin et une prise en charge.
Vous parliez des plus jeunes, Marion Le Boyer, dont on comprend effectivement assez facilement qui puisse être particulièrement angoissée avec en plus tous ces discours sur l'avenir, la crise économique, etc. Il y a aussi les personnes âgées qui ont été particulièrement isolées pendant cet épisode. Et là, on imagine aussi qu'il y a eu quand même possiblement des dégâts. Enfin, qu'en tout cas, ça a été difficile. Est-ce que justement, il y a eu un suivi particulier à ce niveau-là sur la santé mentale, le bien-être de ces personnes âgées qui se sont retrouvées encore plus isolées peut-être que d'autres ?
Alors, c'est très clairement, il y a nécessité de développer des prises en charge spécialisées dans les EHPAD et d'intervenir. Mmh. C'est ce qu'on fait un certain nombre d'équipes, en particulier les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques, qui ont été déployées dans les EHPAD pour venir en aide aux soignants qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans ces EHPAD, mais aussi les personnes qui y vivent, qui ont été exposées au traumatisme de voir une augmentation des décès extrêmement importante, et puis qui ont beaucoup souffert de cet isolement qu'on leur a imposé, de leur famille, de leurs proches, et qui bien sûr se sont déprimés, donc qui ont besoin, ça fait partie des populations vulnérables sur lesquelles on aura besoin d'avoir des chiffres pour savoir comment les prendre en charge et comment adapter l'organisation des soins.
Et on imagine aussi qu'il y a un besoin de chiffres, de remontées, de retours d'expérience, parce qu'on sait que c'est peut-être pas terminé, parce qu'on nous parle d'un retour de l'épidémie, d'une deuxième vague, peut-être d'autres épidémies à l'avenir, et parce qu'on parle quand même aussi d'impossible reconfinement. Alors on n'en sait rien, mais en tout cas on sait qu'il y a des scénarios qui sont à l'étude, qui sont travaillés justement pour faire ça de façon plus ciblée, pour éviter un reconfinement de la population en général. On imagine que c'est pour ça aussi qu'il y a un gros besoin de retour d'expérience, pour savoir peut-être comment faire mieux si la question se pose de nouveau.
C'est effectivement un point extrêmement important. On a besoin de faire de la recherche pour pouvoir se préparer au mieux à ce qui va se passer peut-être cette année, peut-être dans les années à venir, et de faire de la recherche spécifiquement sur les conséquences de cette pandémie Covid chez des patients atteints de maladies mentales. Donc on a besoin premièrement de faire de la recherche épidémiologique pour savoir si les patients atteints de maladies mentales, ils ont été plus ou moins atteints du Covid, et ils semblent se profiler, ça reste à démontrer, qu'ils ont été plutôt moins atteints que ce qu'on pensait.
Ouais.
On s'est tous équipés encore une fois de ces unités Covid, puis elles sont restées vides. Donc on a aussi besoin d'études qui essayent de préciser ça et de chercher si les patients, ils ont été porteurs d'un certain nombre de facteurs de protection. Et il y a eu plusieurs études qui ont suggéré que peut-être les psychotropes, les médicaments qu'on utilise, ont des caractéristiques communes qui font qu'ils protègent de l'entrée du virus. Tout ça nécessite d'être confirmé.
Oui, voilà, là-dessus, pour l'instant, c'est des hypothèses. Oui.
Voilà, donc, mais ça nécessite, et il y a des études en cours à la Fondation Fondamentale pour essayer de le confirmer. Il faut aussi qu'on sache si, quand ils sont atteints, nos patients d'une infection par Covid, ils développent des pathologies plus graves. Et de fait, comme on sait qu'ils sont porteurs de toute une série de comorbidités physiques, somatiques, qui les mettent plus à risque, on a l'impression qu'ils ont été plus souvent en réanimation quand ils ont été malades, parce que ils ont plus souvent un diabète, ils ont plus souvent que la population générale des maladies cardiovasculaires. Donc ils font probablement moins souvent un Covid, mais quand ils font un Covid, c'est une forme plus grave. Et donc, il y a toute une série de questions épidémiologiques et sur les facteurs de risque et sur les facteurs de protection. Et puis, on a besoin de savoir quelles sont, comme vous posiez la question tout à l'heure, des conséquences du confinement, quelles sont les conséquences psychologiques du confinement. Alors là aussi, il y a des études qui ont été publiées des conséquences des précédentes.
Oui.
Pandémie, en particulier en Chine, et qui montre toute une série de conséquences anxieuses et dépressives comme conséquence du confinement. Et du coup, c'est important de le savoir pour pouvoir adapter le système de soins si on doit avoir recours à un confinement dans les mois à venir. Et puis, il faut qu'on mesure et qu'on mette sur le tapis toutes les innovations qui ont été développées pendant ce Covid, et qu'on soit capable là aussi de faire de la recherche sur l'impact de ces innovations, les téléconsultations, les plateformes, et puis aussi ces unités Covid-Psy qui ont vu naître quelque chose auquel moi je tiens beaucoup, qui est qu'on a constitué des unités spécialisées, et ces unités spécialisées, elles étaient assurées par des équipes pluridisciplinaires, psychiatres, médecins généralistes et pharmaciens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on appelle de nos voeux au niveau de la réorganisation des soins, c'est-à-dire de rompre cet isolement et ce cloisonnement de la psychiatrie pour qu'on prenne en charge nos patients dans leur globalité, à la fois sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique, sur le plan somatique, sur le plan pharmacologique, et qu'on arrête de faire des séparations trop importantes entre hôpitaux psychiatriques et hôpital général.
On va en parler de la réorganisation des soins, Marion Le Boyer, et de ce que vous attendez là-dessus. D'abord, encore une chose, il y a un débat, en tout cas tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de dire qu'il peut y avoir suite au confinement quelque chose qui relève du syndrome post-traumatique. Je crois que vous l'avez dit vous tout à l'heure. Est-ce que donc vous parlez clairement d'un syndrome post-traumatique possible et sur quoi vous vous appuyez finalement pour dire ça? Par quoi ça se manifeste?
Alors, on s'appuie déjà sur des données chiffrées qui viennent des précédentes pandémies. Donc, il y a des données sur les précédentes pandémies de SARS, par exemple, dans les années 2002-2003, qui montrent une augmentation très importante de stress post-traumatique. Donc, c'est vraiment des pathologies à part entière qui nécessitent un diagnostic et une prise en charge. Et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des études épidémiologiques en France comme ailleurs en Europe qui mesurent de façon précise, non pas simplement l'anxiété qu'on peut avoir parce qu'on entend à la radio, par exemple, des informations qui vous inquiètent, mais quel est le nombre de personnes qui ont développé à la suite, soit pour les soignants, par exemple, d'une exposition à des situations traumatiques, soit les EHPAD dont on parlait tout à l'heure, soit des gens qui ont vécu des situations très traumatisantes et qui peuvent développer ces pathologies de stress post-traumatique, qui sont des entités cliniques tout à fait spécifiques.
On sait, Marion Le Boyer, qu'il n'est pas évident de parler de santé mentale, que c'est souvent encore tabou, ou qu'en tout cas on est mal à l'aise avec ça. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on en parle davantage, justement en ce moment, en raison de cette épidémie et de tout ce que l'on a évoqué, est-ce que vous pensez que cela peut contribuer à avoir justement un rapport moins honteux vis-à-vis de cela, voire à en faire véritablement un sujet important de santé et de société?
C'est un point absolument crucial. Nos malades, les psychiatres aussi d'ailleurs, sont soumis à une certaine stigmatisation. On a honte de dire qu'on a une dépression. On ne parle pas facilement du fait qu'on a quelqu'un dans sa famille qui a une schizophrénie. Alors que pour les autres pathologies, en particulier le cancer, où c'était la même chose dans les années 90, c'est devenu quelque chose dont on ne parle pas forcément facilement, mais qui est admis et dont on peut parler. Pour les maladies psychiatriques, il y a encore un sentiment de honte et de difficulté, d'une part, à aller consulter, ce qui contribue au retard à la prise en charge et au diagnostic, qui, comme toute maladie chronique, est un handicap. Et puis, il y a une difficulté à aller voir un psychiatre, à en parler à ses proches, sans qu'on vous dise que, par exemple, les fameuses phrases pour la dépression qui consistent à dire « remue-toi, c'est pas grave » et « bouge-toi, ça va passer », ce qui est totalement faux. La dépression, c'est une maladie comme les autres, avec un tableau clinique tout à fait spécifique. C'est une maladie grave qui impose qu'on la diagnostique et qu'on la soigne. Et c'est des maladies qui se soignent. C'est ça qui est aussi important de dire et de passer comme message.
Et donc là, si l'on essaye d'être un tout petit peu optimiste, ou en tout cas de se dire qu'il y a des choses peut-être un peu plus positives qui peuvent émerger de ce que l'on vit, vous pensez que ce moment où l'on parle peut-être davantage de santé mentale peut justement contribuer à changer notre rapport à tout ça?
Je remercie votre émission de radio de m'inviter ce matin.
C'est pas ce que je voulais dire,
c'est important, je crois vraiment que c'est... Absolument, vous n'êtes pas les seuls, et je pense que c'est extrêmement important que, certes, on parle de l'infection, des conséquences de la pandémie sur le plan sanitaire et sur le plan de l'infection en elle-même, mais aussi qu'on puisse en décrire les conséquences psychologiques, psychopathologiques, qu'on fasse le lien entre l'inflammation et le fait que ça peut faire le lit de pathologie psychiatrique. Tout ça, c'est des données qui contribuent à dédramatiser, à déstigmatiser, et à faire simplement que ces pathologies soient reconnues comme des maladies comme les autres.
Expliquez-nous justement, vous avez dit tout à l'heure, on y reviendra, ce lien-là dont vous parlez.
Alors ça fait partie des découvertes de ces 10-20 dernières années qui ont montré que pour un certain nombre de pathologies psychiatriques, et au sein de ces pathologies psychiatriques pour des sous-groupes particuliers, il y a un lien extrêmement fort entre des anomalies de l'inflammation, des dysfonctionnements immunitaires et la survenue de pathologies psychiatriques. Et dans le cadre du Covid, puisque c'est ça dont on parle ce matin, on a montré là aussi dans les précédentes épidémies de coronavirus Et dans d'autres pandémies d'ailleurs, qu'il s'agisse de la rubéole au début des années 70 ou des grandes épidémies de grippe, il y a une augmentation de la survenue d'un certain nombre de pathologies psychiatriques. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'affoler, mais qu'il faut en être conscient pour que le dépistage, pour que l'adaptation du système de soins soit au rendez-vous, pour qu'on puisse prendre en charge ces patients qui vont avoir eu le Covid, qui vont en avoir été soignés et avoir survécu, mais qui peuvent développer des pathologies psychiatriques, et en particulier la fatigue dont certains patients Covid se plaignent après. Ça peut être une fatigue qui est associée à un tableau dépressif et qui nécessite d'être soignée, d'être prise en charge.
Grande fatigue, effectivement, qui a souvent été décrite par les personnes malades. Donc, il faut un suivi dans la durée, en fait. C'est ça que vous nous expliquez de ces patients.
Et être conscient que cette fatigue et ces anomalies inflammatoires peuvent faire le lit de dépression qui nécessite d'être prise en charge.
Marion Le Boyer, responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Mondor à Créteil, directrice de la Fondation Fondamentale. Nous vous retrouvons après le journal de 8h pour poursuivre cette discussion et l'élargir aussi à l'état de la psychiatrie en France, à ses besoins, alors qu'Olivier Véran, le ministre, doit faire aujourd'hui des annonces sur l'organisation du système de soins à l'occasion de la clôture du Ségur de la Santé.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Et nous retrouvons notre invitée Marion Le Boyer, responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Mondor à Créteil, directrice de la Fondation Fondamentale, co-auteur du livre « Psychiatrie, l'état d'urgence » paru chez Fayard en 2018. Nous avons parlé avec vous avant 8h des conséquences de la pandémie, du confinement sur notre santé mentale. Qu'attendez-vous, Marion Le Boyer, du Ségur de la Santé? Olivier Véran doit faire des annonces aujourd'hui sur l'organisation des soins. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que quelque chose est prévu pour la psychiatrie dans ce cadre-là?
Alors, on salue bien sûr la volonté du gouvernement de tirer les conséquences sur le plan de l'organisation des soins et sur le plan des salaires, des conséquences du Covid. Mais on aimerait bien que la psychiatrie soit entendue, qu'elle soit à la table des négociations et que cette crise soit l'occasion, une fois encore, de rappeler la fragilité de l'organisation de la psychiatrie en France, qui a tenu bon pendant le confinement. Mais on l'avait signalé dans notre livre sur vos plateaux à plusieurs reprises. L'organisation de la psychiatrie en France est gravement malade et a besoin d'une réorganisation en profondeur. Donc c'est sûr que nous, on souhaite que, et c'est pour ça qu'on a fait un manifeste qui est disponible sur le site de la Fondation Fondamentale, on attend beaucoup de ce Ségur de la Santé et on espère que la psychiatrie va être présente, qu'elle va
être entendue. Là, il est en train de se terminer, donc la question c'est plus, la psychiatrie a-t-elle été présente?
Alors, elle a pas été présente en tant que discipline, puisque les négociations, on en apprendra plus quand on saura précisément ce qui va être dit ce matin, mais ça n'a pas porté sur la réflexion, sur la réorganisation du système de soins en profondeur, qu'on appelle de nos voeux.
Alors, Olivier Véran a dit, en tout cas, il a été interrogé lors des questions au gouvernement la semaine dernière, il a dit que la psychiatrie ne serait pas oubliée, que parmi les 15 000 postes dont la création a été annoncée, il y en aura pour la psychiatrie des postes. C'est de ça, notamment, que vous avez besoin, principalement?
Alors, on a besoin de beaucoup de choses. Effectivement, les services de psychiatrie, le mien en particulier, manquent de moyens, mais il manque aussi de difficultés à recruter les postes qui sont vacants, parce que cette discipline, elle est plus enchantée, elle n'est pas attractive.
Elle n'attire pas.
Elle n'attire pas suffisamment, parce que la qualité des soins n'est pas au rendez-vous. On est beaucoup plus appelé à des éléments quantitatifs, mais pas à respecter tout ce qui est et ce qui devrait être fait pour assurer la qualité des soins. Et puis, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est pas seulement des moyens, c'est pas seulement de pouvoir recruter, mais c'est aussi de changer l'organisation des soins. On a besoin aujourd'hui de décloisonner la psychiatrie, par exemple, de la médecine générale, de décloisonner la pédopsychiatrie, de la psychiatrie du sujet adulte. On a besoin de développer une prise en charge plus spécialisée qui va venir compléter le système de la psychiatrie de secteur. On a besoin de créer des parcours de soins qui soient lisibles par pathologie, avec des centres de diagnostic et de prise en charge. On a besoin de parcours de soins qui soient gradués. Et puis comme je disais à l'instant, on a besoin que la qualité des prises en charge soit au rendez-vous, avec des diagnostics qui soient beaucoup plus précoces. On a un retard de diagnostic qui est grave en France. On a besoin qu'il y ait des évaluations spécialisées et complètes qui soient réalisées, qui soient psychiatriques mais aussi somatiques et psychologiques. Et puis on a besoin que les bonnes stratégies thérapeutiques soient disponibles partout et qu'elles soient déployées, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et puis, dernier point de ce qu'on a vraiment besoin, et on en a parlé un petit peu quand on a parlé du Covid tout à l'heure et de ses conséquences, c'est qu'on a absolument besoin que la recherche en psychiatrie soit soutenue, ce qui n'est pas le cas en France, que les innovations puissent être soutenues, déployées, Et je rappelle à votre micro une fois encore que le budget de la recherche en psychiatrie en France, il est que de 2 à 4% du budget total de la recherche biomédicale, alors qu'on sait... C'est très différent ailleurs, c'est beaucoup plus important, alors que le chiffre du coût de ces pathologies, de ce que ça a comme impact économique, il est le même partout. On sait par exemple en France que les premières causes de dépenses de santé de l'assurance maladie pour les maladies chroniques, c'est les maladies mentales. Donc aujourd'hui, l'assurance maladie dépense près de 23 milliards d'euros par an. Et quand on ajoute les dépenses indirectes qui sont liées au chômage ou à la perte de qualité de vie, le coût de la psychiatrie en France, c'est 109 milliards d'euros.
Cela fait des années, Marion Le Boyer, qu'il y a des rapports, des livres, dont le vôtre, effectivement, sur l'état, les difficultés de la psychiatrie en France. Mais contrairement à d'autres secteurs qui souffrent peut-être d'être réformés tous les 6 mois, la psychiatrie, au contraire, a été très peu réformée. Est-ce que c'est la santé mentale? Est-ce que c'est un impensé politique, quelque part? Est-ce que, voilà, ça, c'est un trou noir?
Alors, c'est sûr que... Quand vous rentrez dans un bloc opératoire aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 60 ans. En psychiatrie, l'organisation des soins, elle a été construite il y a 60 ans autour d'une politique qui était extrêmement innovante à l'époque, qui s'appelle la psychiatrie de secteur. Et aujourd'hui, on...
Rappelez-nous, c'est une organisation, par secteur, voilà, en même temps.
C'est une organisation basée sur l'accès de tout le monde aux soins, avec à la fois des services hospitaliers et des centres de consultation qui sont proches de certaines zones géographiques. Ces secteurs, ils sont développés pour des zones géographiques de 70 à 90 000 habitants. Ils offrent un soin de proximité général. C'est un système qui a été à l'époque conçu comme quelque chose d'extrêmement innovant, comme devant améliorer l'accès aux soins. Aujourd'hui, on sait que ce système, il doit être complété, il doit être renforcé parce qu'il n'a plus les moyens de répondre à toutes les missions qu'on lui impose. Et il doit être complété par une organisation des soins qui soit repensée. Et c'est vrai qu'on appelle de nos voeux l'existence, et c'est la première mesure qu'on propose dans notre livre, d'un opérateur, d'une agence, d'un institut, comme on l'a fait pour le cancer dans les années 90, où finalement la prise en charge du cancer dans les années 90 était à peu près aussi désorganisée qu'elle l'est aujourd'hui pour les maladies mentales. C'est un système où la stigmatisation était extrêmement importante, on n'en parlait pas. Deuxièmement, l'égalité ou la facilité d'accès aux soins était extrêmement différente d'un territoire à l'autre et la recherche n'était pas soutenue. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on repense l'organisation des soins, qu'on la réfléchisse en profondeur, et pour ça on a besoin d'un opérateur, comme on l'a fait pour l'INCa, qui soit en charge d'une meilleure information, parce que ça contribue à la déstigmatisation, qui soit chargé de poser sur la table les inégalités territoriales et thérapeutiques qui sont légion en France aujourd'hui.
Parce qu'il y a des déserts médicaux aussi en psychiatrie, clairement.
Alors, il n'y a pas que des déserts médicaux. Il y a des déserts médicaux, par exemple, pour les pédopsychiatres, où il y a un certain nombre de régions, de départements qui n'ont pas de pédopsychiatres. Il y a un certain nombre de psychiatres qui ne sont... des postes qui sont pas pourvus, mais il y a aussi une inégalité territoriale sur l'accès aux soins. Par exemple, on sait tous que différentes formes de psychothérapie doivent être déployées et offertes aux patients, et il y a un certain nombre de régions où c'est juste pas possible. Par exemple, on a beaucoup déployé ce qui s'appelle l'éducation thérapeutique, elle n'est pas disponible partout. Ce qu'on appelle la remédiation cognitive, qui est le fait de rééduquer les difficultés de mémoire ou d'attention, n'est pas disponible partout. Donc, il y a une inégalité territoriale qui est renforcée par le fait, pour continuer sur l'idée des psychologues, que c'est des stratégies thérapeutiques qui ne sont pas remboursées. Donc tout ça, c'est des éléments de réflexion sur lesquels il faut absolument qu'il y ait un chantier, qu'il y ait un plan qui soit déployé et qui comprenne aussi, je le redis encore une fois, le soutien à la recherche, parce que c'est de l'innovation et de la recherche que vont surgir des innovations thérapeutiques et une meilleure prise en charge.
Vous insistez là-dessus beaucoup, en effet, Marion Le Boyer. En même temps, vous savez très bien que justement, il y a aussi des débats internes à la psychiatrie et notamment sur la part, justement, et l'importance accordée à la recherche, à l'innovation. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains de vos confrères pensent que le cœur n'est pas là et que ça n'est pas ça qui est plus important. Peut-être aussi que c'est parce qu'il y a ces divisions, ces débats internes qu'il est difficile d'avoir une vision globale, non?
Alors je pense que c'est le débat sur l'innovation, c'est un débat passé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut développer de la recherche, que ça soit de la recherche biologique, que ça soit de la recherche sur l'inflammation dont on parlait tout à l'heure, ou que ça soit de la recherche en sciences humaines et sociales. Le problème, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'appels d'offres dédiés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, qu'ils soient publics et privés, pour qu'on puisse faire de la recherche. Et c'est une spécificité tristement française. Alors même qu'on a été à l'origine de toute une série d'innovations, précisément sur énormément de sujets qui vont depuis la génétique de l'autisme, où je rappelle qu'on a été les premiers dans les années 2000 à identifier les gènes de l'autisme, mais aussi l'identification des facteurs de risque environnementaux. Par exemple, on a montré dans une grande étude européenne auquel on a participé que il y a beaucoup plus de patients schizophrènes dans les villes que dans les campagnes, et ça impose la recherche de ces facteurs qui sont liés au fait de vivre en ville et qui peuvent concerner la pollution, le stress, toute une série de facteurs sur lesquels il faut qu'on travaille.
Merci beaucoup. En tout cas, Marion Le Boyer, nous suivrons donc ce qui sera ou pas dit de la psychiatrie dans les annonces d'Olivier Véran aujourd'hui. Marion Le Boyer, responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Mont-d'Or à Créteil, directrice de la Fondation Fondamentale. Et vous avez donc coécrit avec Pierre-Michel Lorca le livre Psychiatrie, l'état d'urgence. C'était en 2018 aux éditions Fayard. Merci beaucoup à vous d'être venu sur France Culture ce matin.